Vous écoutez RTL.
RTL, première radio de France.
Suivez la route du Rhum, destination Guadeloupe.
La curiosité est un vilain défaut.
C'est un événement qui reste très populaire. Il y a énormément de personnes qui viennent à Saint-Malo pour voir les bateaux, parce que ces bateaux font rêver.
RTL.
Jusqu'à 22h.
Et qui seront au départ sur l'eau, à terre, au Cap Fréhel. Enfin voilà, c'est une course qui est suivie par nombre de Français.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
C'est à une course de légende que vous allez participer maintenant sur RTL, la 10e route du Rhum qui démarre le 2 novembre prochain de Saint-Malo, direction la Guadeloupe. Parmi les participants, notre invité Fabrice Amédéo, journaliste au Figaro, marin et habitué des courses au large. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. Combien de courses, à quelle course vous avez participé déjà?
J'ai déjà fait la solitaire du Figaro. Normal, vu que je travaille au Figaro, c'était un clin d'œil sympa. J'ai fait la route du Rhum 2010 déjà, la Transat Jacques Vabre l'année dernière. J'ai fait après d'autres courses moins connues comme la route du chocolat et également la Québec Saint-Malo. Et cette année, je vais participer à ma deuxième route du Rhum.
Vous êtes presque plus skipper que journaliste aujourd'hui?
Non, je suis plus journaliste que skipper parce que on est à Paris, je vis à Paris, etc. Mais c'est vrai que on peut dire avec humour que j'ai une double vie, non pas sentimentale mais professionnelle. Que je partage ma vie entre la Bretagne et le large et ma vie parisienne de journaliste.
Ça demande combien de temps de préparation, par exemple, la route du Rhum, puisque vous allez participer à la prochaine?
La route du Rhum, ça demande beaucoup de travail. Moi, d'une certaine manière, je m'y prépare depuis l'arrivée de la route du Rhum 2010. J'ai continué à faire des transats en double ou en équipage, et d'une certaine manière, j'avais toujours en ligne de mire cette route du Rhum qui est vraiment un sommet en solitaire. Traverser l'Atlantique en solitaire en mois de novembre, ça reste quelque chose, ça reste une aventure, même si on l'a fait dans le cadre d'une course. Et après, dans le cadre de cette année, j'ai eu une préparation spécifique le week-end, pendant les vacances et là, régulièrement, toutes les semaines.
Ça reste une aventure, c'est-à-dire quelles difficultés vous avez rencontrées lors de cette route du Rhum 2010?
Écoutez, ça reste une aventure parce que même si aujourd'hui on a des...
Sans minimiser,
tout à fait. Ne soyons pas modestes.
Non.
Même si aujourd'hui on a des moyens, de notamment le téléphone satellite qui nous relie à la Terre, qui nous permet d'avoir des informations météo précises, des logiciels qui nous permettent on appelle ça des logiciels de routage, donc qui nous permettent de calculer la route optimale en fonction de la météo et donc la route la plus rapide. Ça reste un sport mécanique avec de la casse, avec de possibles dangers, et c'est à chaque fois de toute façon l'océan qui a le dernier mot. Et donc être un bon marin, c'est être un peu un ingénieur capable de gérer l'informatique, l'électronique à bord.
Là, vous n'avez pas parlé de vos difficultés, mais des techniques pour que ça aille mieux.
Alors mes difficultés à moi, en 2010, je me suis retrouvé à 600 milles des Açores. Dans un front, au cœur d'une dépression, avec 40 nœuds de vent, avec une panne de pilote automatique. Donc je pouvais plus lâcher ma barre. Et c'était assez fâcheux quand même.
Impossible de dormir, c'est ça?
J'ai dû régler le problème dans la journée. Donc en fait, j'ai eu 2 heures de grande angoisse où j'étais à la barre, le vent montait, le bateau accélérait et je pouvais plus lâcher la barre. Et
vous avez pu mourir, enfin couler, c'est quoi le...
Non, j'aurais pu déchirer les voiles ou démater. Ce qui est très embêtant pour le bateau, ce qui est catastrophique pour la course, mais qui n'est pas encore dramatique pour le skipper. Et donc à un moment, j'ai dû me mettre face au vent et affaler toutes mes voiles. Et donc là, ça devenait vraiment compliqué parce que les vagues traversaient le bateau. Et une fois que j'ai réussi à affaler toutes mes voiles, j'ai envoyé une toute petite voile de vent qui me permettait juste de glisser avec le vent qui me poussait. J'ai fixé ma barre. Et puis j'ai réparé mon pilote automatique.
Il faut être bricolo aussi quand on part seul comme ça dans une course au large. Pour bien visualiser, c'est quel type de bateau? C'est un monocoque?
Moi je pars sur un monocoque qui s'appelle un classe 40. Donc c'est un monocoque de 12,18 m, un 40 pieds. Et pour expliquer en général aux gens qui connaissent pas et pour qui la voile c'est un sport un peu mystérieux, j'explique que je pars sur un modèle réduit des 60 pieds du Vendée Globe. Ça les gens comprennent en général. Donc en fait sur la route du Rhum, il y a 5 catégories de bateaux. Vous avez les multicoques, donc les ultimes, qui sont les grands multicoques qu'on va voir sur la route du Rhum cette année. Ensuite, vous avez les multi 50, donc c'est des multicoques de 50 pieds, de taille un petit peu plus modeste. Ensuite, vous avez les IMOCA, donc les 60 pieds qu'on connaît parce qu'ils font le Vendée Globe. Vous avez les classes 40, donc c'est les monocoques, les petits monocoques de 12,18 m. Et ensuite, vous avez une catégorie qui s'appelle la catégorie Rhum, qui est une catégorie, on va dire, un peu fourre-tout. Vous avez à la fois des monocoques, à la fois des multicoques, c'est des bateaux.
Ça dépend des sous qu'on a réussi à économiser pour s'acheter un bateau, la taille du bateau, pour bien comprendre.
Sponsor qu'on a réussi à motiver.
Ça dépend de pas mal de paramètres. Ça dépend déjà de son niveau technique. Ça dépend en effet aussi de ses ambitions et aussi bien évidemment des moyens financiers qu'on a réussi à mobiliser. En ce qui concerne les multicoques ultimes, faut pas croire que ce soit le rêve de tous les marins, parce que je pense qu'il y a quand même assez peu de marins, là on parlera de ces grands bateaux tout à l'heure, il y a assez peu de marins en France et dans le monde qui sont capables de partir en solitaire sur ces machines-là.
Mmh. Et on va vous raconter dans un instant la première route du Rhum, ça date de 1978, par qui a-t-elle été créée et puis comment on en est arrivé à un final absolument absolument légendaire. On va réécouter pour le plaisir le final de l'époque tout de suite.
Malinowski regarde Michael Burch, ça y est, Michael Burch est passé, il a déjà 10 mètres d'avance sur Michel Malinowski, c'est lui le vainqueur de cette première transat française. Une arrivée extraordinaire, comme vous ne pouvez pas imaginer, il y a même seulement une heure.
Premier, Michael Burch, 22 jours, 15 h 05 secondes. Et à 97 secondes très exactement derrière lui, Michel Malinowski.
97 ou 98 secondes d'ailleurs, voilà. Peut-être d'écart alors qu'il y avait eu plus de 23 jours de course. On va vous raconter comment on en est arrivé là pour cette première route du Rhum. On était en 1978. Restez avec nous sur RTL.
Vous écoutez RTL.
Denis Bonnec, Thomas Hugues.
La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
On embarque pour la 10e route du Rhum sur RTL avec notre invité, le skipper et journaliste Fabrice Amédéo. On a entendu tout à l'heure, là, il y a un instant, le commentaire d'époque sur cette arrivée mythique entre le Canadien Mike Burch qui finit après plus de 23 jours de course avec 98 secondes d'avance devant le Français Michel Malinowski. La caractéristique, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils voient les spectateurs en Guadeloupe à ce moment-là? Une régate entre deux bateaux très différents, c'est ça?
Donc en fait, les gens qui étaient en effet à l'arrivée en Guadeloupe voient un immense monocoque de l'époque, donc qui était un peu, on va dire, l'incarnation de ce qui se faisait de mieux en termes de yachting, un magnifique monocoque skippé par un grand champion, et voit une petite libellule jaune qui arrive par derrière et qui franchit la ligne quelques secondes avec lui, donc 98 secondes avec cette une mythique de l'équipe, 98 secondes pour l'éternité. Et c'est vrai que cette une à l'époque était bien choisie parce que cette arrivée absolument mythique et incroyable entre les deux marins a complètement changé le cours de l'histoire de la course au large.
Pourquoi?
Puisqu'à l'époque les monocoques étaient les soi-disant les meilleurs bateaux, les grands marins partaient sur des monocoques, la transat anglaise se courait déjà un petit peu sur des multicoques, mais tous les grands marins partaient sur des monocoques, et là pour la première fois un marin sur un petit monocoque, une petite libellule jaune
qui ressemble à rien, enfin, on va dire ça comme ça par rapport à la beauté des monocoques de l'époque.
C'est vrai que ça ressemblait pas à grand chose à l'époque, a battu Michel Malinowski, et donc d'une certaine manière ça a sonné le glas du monocoque, en tout cas pour gagner la route du Rhum en temps réel. Et après édition après édition, on a vu arriver des multicoques toujours plus gros pour chercher à gagner cette mythique route du Rhum.
Et cette première route du Rhum en 78 est aussi marquée par la disparition d'Alain Colas et de son bateau Manureva. À quoi il ressemblait, ce bateau?
C'était un immense bateau. Là aussi, c'était complètement fou de partir sur un bateau comme ça. Et cette disparition, elle a beaucoup fait fantasmer à cette époque-là, parce qu'en 69, il y avait un marin qui avait disparu sur le Golden Globe, qui était la première course en solitaire autour du monde, qui s'appelait le Donald Crowhurst. Et ce marin avait en fait raconter sa course en envoyant des messages à terre, en racontant plein de choses complètement fantasques, en disant qu'il était en tête, alors qu'en fait il faisait des tours dans l'Atlantique à la recherche sans doute de lui-même et animé par une grande folie. Et beaucoup de gens ont prêté à Alain Colas un destin à la Donald Crowhurst, alors qu'en fait ce marin a peut-être juste heurté un OVNI, un objet flottant non identifié, ou eu un accident dont on ignore la cause. Peut-être a-t-il heurté un cargo, on ne saura jamais. En tout cas, on n'a jamais su ce qui s'était passé pour Alain Colas.
Et on peut réécouter l'un de son dernier message.
Vous savez, j'ai vraiment retrouvé le contact avec Manureva. Je mène Manureva d'une façon beaucoup plus pondérée, beaucoup plus intériorisée, et je crois que le bateau apprécie. Et je pense qu'en ce moment, je fais de la très bonne route. Bonjour à toute l'équipe, au revoir.
Ce message radio, émis le 16 novembre 1978 au large des Açores, sera le dernier signe de vie d'Alain Colas. Ce jour-là, Alain Colas et son bateau mythique, dont on ne retrouvera aucune trace, entraient ensemble dans la légende.
Il est fort ce message d'Alain Colas, il a l'air sûr de lui, bien avec son animal, son bateau.
Le message qu'on entend est le message d'un marin complètement grisé par la course, sans doute un peu aussi par la fatigue, par l'adrénaline. Il a l'air d'être complètement dans sa course et maître de son sujet. Et en fait, personne n'imagine à ce moment-là ce qui va arriver quelques jours ou quelques heures plus tard, personne ne le sait finalement. C'est son frère en premier qui a commencé à s'inquiéter, voyant les premiers bateaux arriver, connaissant le potentiel de vitesse du bateau d'Alain Colas et ne le voyant pas arriver. Et puis voilà, les bateaux arrivent les uns après les autres. Au fur et à mesure que les bateaux arrivent, et ben on se rend compte qu'Alain Colas manque à l'appel, on ne retrouvera jamais sa trace.
Parce que dans votre livre, Fabrice Amédéo, publié chez Glénat, vous citez un autre message d'Alain Colas: « Je suis au centre du clone, il n'y a plus de mer, il n'y a plus de ciel. Donc ça, je pense que ça doit être un message peut-être écrit qu'on a retrouvé. Et ça veut dire quoi? Il s'est retrouvé au centre d'une gigantesque dépression, c'est ce qu'on peut imaginer?
Oui, alors c'est difficile de savoir exactement ce qu'il a voulu dire. Il faut aussi savoir que les marins en course au large quelquefois se mettent dans des états de fatigue assez avancés et donc peuvent raconter des choses quelquefois qui peuvent sembler un peu incohérentes. On ne sait pas exactement ce qui se passait à ce moment-là pour Alain Colas. Ce qui est sûr, c'est que la flotte de cette première édition de la Route du Rhum a été traversée, parcourue par plusieurs dépressions, trois de mémoire, et que la troisième était la plus violente. Et il me semble de mémoire que ce message a été écrit à ce moment-là. Et donc peut-être qu'il était en effet au cœur de la dépression, donc dans un moment où il y a moins de vent, au cœur de la dépression, voire même plus du tout, avec souvent des lumières un peu psychédéliques. Et donc peut-être, voilà, on ne sait pas.
Comment on a amélioré la sécurité des marins depuis 1978?
La sécurité des marins, elle a été améliorée par beaucoup de choses. Déjà, les bateaux sont plus performants et ont plus de sécurité. Et ce qui a vraiment été un plus, c'était le fait de pouvoir les suivre en temps réel, grâce au positionnement par satellite, ainsi que pour les multicoques, le fait de pouvoir router les bateaux, donc d'avoir un lien avec la Terre et de pouvoir échanger avec un météorologue qui vous donne la route optimale pour aller vers la Guadeloupe, mais qui aussi vous décrit les systèmes météo à éviter quand il y a une dépression trop creuse qui arrive vers vous.
À l'époque, dans cette première route du Rhum, il y avait quoi comme moyen de communication?
C'était pas grand-chose. On communiquait avec la BLU, donc c'était vraiment un système radio. Et en ce qui concernait la météo, les marins sont vraiment partis à l'aventure, c'est-à-dire qu'ils sont partis. Certains disaient avant le départ, moi je vais prendre une route directe. D'autres disaient, moi je vais faire une route un peu plus nord. Et d'autres comme Mike Birch ont opté pour une route sud. Il faut savoir que stratégiquement la route du Rhum, en fait, ce qui est très important et ce que le grand public va pouvoir suivre maintenant dans deux semaines, c'est la position de l'anticyclone des Açores. Soit on passe par le nord de l'anticyclone des Açores et donc auquel cas on fait face aux dépressions de l'automne, soit on arrive à se glisser entre l'anticyclone des Açores et le Portugal et à faire une route sud et ensuite à attraper les alizés, synonymes de vent portant. Et donc suivant les éditions, soit on arrive à passer par le nord, soit on arrive à passer par le sud, soit certains passent par le nord et d'autres passent par le sud et la course se joue à l'arrivée.
Ouais. Dans cette première route du Rhum en 1978, il y avait aussi une jeune femme de 21 ans, Florence Artaud. Elle devient la fiancée de l'Atlantique. 12 ans plus tard, c'est elle qui passe la ligne en premier. On va vous raconter son histoire dans un instant sur RTL.
RTL.
La curiosité est un vilain défaut. Vous écoutez RTL.
5, 4, 3, 2, 1.
RTL.
Par le sud, c'est vent portant. Et par le nord, l'idée, c'est de contourner l'anticyclone. Et ça, c'est la route directe.
La curiosité est un vilain défaut.
Collision avec un chalutier portugais.
Jusqu'à 22h.
Maintenant, voilà, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est les mouvements du mât qui viennent pas fracasser le pont.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
On y est là dans l'ambiance de la route du Rhum, jour J, moins 13 avant le départ de la 10e route du Rhum, le 2 novembre prochain sur les quais de Saint-Malo et les falaises qui mènent au Cap Fréhel. On trouvera du monde, on trouve même pas de place d'ailleurs, parce que moi j'ai déjà essayé d'y aller. On veut installer sa petite chaise et son petit pique-nique, c'est absolument impossible.
Il faut y aller très très tôt le matin, c'est ça.
On en parle avec Fabrice Amédéo qui est notre invité, qui est journaliste, skipper. Avec vous, on parle de cette route du Rhum 1990 avec Florence Artaud, c'est son quatrième départ. Ça va se passer comment cette course? Est-ce qu'elle est favorite déjà?
Non, elle est absolument pas favorite. C'est vraiment une course, une édition absolument incroyable. C'est ça aussi la magie de la route du Rhum. C'est que donc elle a déjoué tous les pronostics à cette époque-là. Donc en 90, on avait tous les grands marins hommes. Donc on avait les frères Perron, Loïc et Bruno Perron. Donc on avait Philippe Poupon qui était de retour, qui avait gagné en 86. Bref, on avait tous les grands noms de la course au large. Et face à eux, Florence Artaud, qui certes avait un magnifique bateau, qui avait le potentiel pour gagner, mais qui ne faisait absolument pas partie des favoris.
C'était une femme.
Elle s'était blessée, elle avait eu une minerve en fait juste avant pendant une semaine ou 15 jours avant le départ, et donc elle n'avait pas pu naviguer, elle n'avait pas pu achever sa préparation et puis surtout faire ce qu'on appelle c'est s'amariner avant de partir, c'est-à-dire faire les derniers bords à bord du bateau, convoyer le bateau vers Saint-Malo. Tout ça c'est des moments importants parce qu'on s'amarine, on s'habitue un petit peu encore à naviguer.
Juste pour pas avoir le mal de mer par exemple.
Voilà,
déjà,
pour pas avoir le mal de mer par exemple. Et donc elle était restée à terre avec sa minerve et elle avait pris le départ sur son géant là, Pierre Ier. Et donc, autre obstacle, elle avait eu une hémorragie gynécologique au cours de la course. Donc, pendant 24 heures, elle était restée complètement out. Donc, on dit se mettre à la cape. Donc, elle avait mis les voiles à contre et elle avait arrêté de naviguer. Et au final...
Ça, c'est le début de sa course?
Ça, c'était après une semaine de course. Donc, à mi-course à peu près.
Elle avait dit après, je crois que c'était une fausse couche.
Oui, alors elle aime pas trop qu'on en parle. Je sais qu'elle me l'a confirmé. Je l'ai pas écrit dans le livre. Je trouve que c'est bon. Voilà, on l'a dit ce soir. Mm-hmm. Mais elle a eu en effet une fausse couche et donc une.
J'ai lu dans le livre pourtant.
Ah bon?
Ouais.
Non, c'est pas vrai.
Si, je vous
non, c'est pas vrai. Bon, non, c'est pas la fausse couche, c'est pas possible. Elle a eu une hémorragie en tout cas et elle a fait un malaise et elle a réussi quand même à reprendre le fil de sa course et à terminer devant tous les grands noms de la course au large et donc c'était vraiment une victoire magnifique, surtout une femme qui gagnait face à tous ces hommes sur un bateau de cette taille, ça montrait que voilà, la course au large peut être gagnée par des femmes.
Oui, c'était un message évidemment symboliquement très très fort. Qui arrive second?
Philippe Poupon. Qui avait fait une route nord absolument magnifique, qui aurait pu faire le doublé, mais qui, cette année-là, est tombé sur quelqu'un de plus fort que lui, en l'occurrence Florence Artaud.
Et pour Florence Artaud, ça veut dire quelque chose que ce soit Poupon, son dauphin, si j'ose dire?
Je me rappelle lui avoir posé la question, et je me rappelle que oui, elle m'avait parlé de la grande fierté pour elle à ce moment-là. Après, Florence Artaud, elle a une grande sensibilité, et quand je l'ai interviewée, elle m'a aussi beaucoup parlé de retrouver ses proches, retrouver l'arrivée de la Guadeloupe, en Guadeloupe. C'est souvent ce qui ressortait et ce qui ressort dans beaucoup de témoignages des marins que j'ai pu rencontrer ou que j'ai eu au téléphone en écrivant ce livre. La course au large, c'est bien sûr une compétition, mais il y a aussi cette dimension de voyage, d'aventure, et il y a toujours beaucoup d'émotions dans les arrivées, que l'on soit premier, deuxième, troisième. Il y a beaucoup de solidarité entre les marins, et c'est aussi ça qui ressort et que je trouve très beau dans ce sport.
Vous l'avez vécu, vous, il y a 4 ans, l'arrivée en Guadeloupe, ça se passe comment? Il y a la foule, il y a plein de bateaux, même pour un participant alors, qui arrive un peu plus tard.
Quand on part, c'est vraiment incroyable. Et pour un marin comme moi qui part pour la performance, mais qui peut pas arriver premier avec un monocoque de 12 mètres, on peut pas arriver premier sur la route du Rhum. Le départ est un moment absolument magique. D'ailleurs, tous les marins le disent, les écluses le samedi et le dimanche matin, c'est noir de monde. Le Cap Fréhel, il y a 300 000 personnes au Cap Fréhel, c'est absolument incroyable. En revanche, l'arrivée est un petit peu plus confidentielle pour les marins qui n'ont pas la chance d'être sur des grands multicoques et d'arriver dans les deux ou trois premiers. Ça, c'est clair. Mais ça reste quand même une magnifique fête et les Guadeloupéens sont super accueillants.
Pour se rendre compte, le vainqueur il y a 4 ans, il a mis combien de temps pour traverser l'Atlantique?
Le vainqueur il y a 4 ans a mis 9 jours. Le record est détenu par Lionel Lemonchon en 2006 en 7 jours. Et sur la première édition, ça s'était joué en 24 jours. Donc ça vous montre un petit peu l'évolution des bateaux et des performances.
Donc le vainqueur il y a 4 ans met 9 jours et vous? En monocoque, alors lui il était en multicoque géant, j'imagine.
Oui, moi je mets 21 jours. Bateau. Je mets tout juste 21 jours il y a 4 ans sur mon monocoque et je termine 26e sur 44, ce qui était assez honorable pour une première participation.
Et comment on vit ce contraste entre ce que vous nous décrivez à l'instant, c'est-à-dire la foule gigantesque du départ et puis le moment où on bascule dans la solitude, dans l'immensité de l'Atlantique?
Quand on part sur une course au large, en solitaire, en l'occurrence la route du Rhum, on part aussi un petit peu pour se confronter bien sûr aux autres, mais aussi pour se confronter à soi-même et vivre cette expérience. Donc quand on arrive à Saint-Malo, qu'on a le bateau sous les remparts à Saint-Malo, la foule, etc., ça pompe énormément d'énergie. Et même s'il y a une magie à rencontrer tous ces gens, tout cet engouement, etc., il y a un moment où on a vraiment envie de partir.
Se retrouver seul avec son
que
bateau.
Que l'on joue la gagne ou que l'on joue juste son aventure personnelle, on a tous envie d'y aller et en général le coup de canon est vraiment un coup de canon libérateur. Il y a beaucoup de monde sur l'eau, donc il y a aussi la sécurité des bateaux qui est un vrai paramètre au départ, et après une fois qu'on a viré la bouée au Cap Fréhel, on part vers le large et là c'est l'aventure qui commence.
La route du Rhum qui repart le 2 novembre pour sa 10e édition, c'est ce que vous nous racontez Fabrice Amédéo dans le livre officiel titré Les héros de l'Atlantique. Toujours plus vite, toujours plus grand sur RTL, on vous fait monter à bord de ces bateaux qui s'apprêtent à prendre la mer dans le port de Saint-Malo.
Vous écoutez RTL. La curiosité est un vilain défaut.
RTL.
C'est la curiosité sur RTL jusqu'à 22h. On vous embarque sur la 10e route du Rhum avec Fabrice Amédéo, skipper et journaliste. Il publie Les héros de l'Atlantique chez Glénat. Depuis 78, la première route du Rhum, qu'est-ce qui a changé?
Bah écoutez, j'ai envie de vous dire à la fois tout et rien. C'est-à-dire que rien n'a changé parce que bah, les organisateurs d'aujourd'hui ont gardé ce qui fait la magie de la route du Rhum, à savoir une ligne de départ unique à Saint-Malo, que l'on parte sur un monocoque, sur un grand bateau, sur un petit bateau. On part tous au même moment, à la même heure, sur une grande ligne de
départ. Ça, c'est important.
Ensuite, bon, un parcours vers les Antilles. Et quand on arrive en Guadeloupe, on fait le tour de la Guadeloupe en laissant la Guadeloupe dans son bâbord. Donc on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour arriver jusqu'à Pointe-à-Pitre, avec donc du coup également cette dimension de spectacle en Guadeloupe, puisque les Guadeloupéens voient les bateaux qui font le tour de l'île et donc peuvent venir sur les plages ou même suivre en voiture les bateaux jusqu'à Pointe-à-Pitre.
Donc ça, c'est la base qui n'a pas changé.
Ça, c'est la base qui n'a pas changé. Ce qui a changé après, c'est tout. Hein. Vous voyez les bateaux d'aujourd'hui, ils n'ont absolument rien à voir avec la petite libellule jaune dont on parlait tout à l'heure de Mike Birch qui a gagné en 24 jours en 78.
Ils sont plus grands forcément ?
Ils sont beaucoup plus grands, plus puissants, plus rapides. La technologie n'a plus rien à voir. Les bateaux sont en carbone. Les surfaces sont gigantesques. Le Spindrift de Yann Guichard, donc qui est le plus gros bateau cette année, fait 40 mètres de long. Celui de le Banque Populaire de Loïc Perron fait 34 mètres de long. Donc c'est vraiment des bateaux monstrueux qui à la base étaient faits pour faire le Trophée Jules Verne, donc le Tour du Monde en équipage, et qui ont été adaptés par les équipes pour pouvoir faire la Route du Rhum en solitaire.
En 2010 apparaissent les bateaux les Ultimes. C'est voilà. Quoi ça les Ultimes?
C'est Tesla, ouais. Les Ultimes en fait c'est la société Penduc qui organise la Route du Rhum qui a dit écoute on va renouer avec les origines de la Route du Rhum et dire qu'on part sur la Route du Rhum sans aucune limitation de taille pour laisser libre cours à l'imagination des marins et des armateurs. On part sur le bateau qu'on veut sans limitation de taille et que le meilleur gagne.
C'est une course et artistique donc, aussi alors un peu.
Je dirais pas une course artistique mais disons que c'est un peu ça peut être la course un peu à la folie des grandeurs, ouais. Puisqu'on ouvre finalement le jeu complètement. Alors en 2010 c'est
Franck Camas,
qui revient sur le bateau sur lequel il avait gagné le trophée Jules Verne, qu'il adapte. Donc c'est assez marrant parce que souvent les gens ne connaissent pas bien les bateaux mais visualisent souvent ce qu'on appelle les moulins à café, c'est-à-dire ces choses qu'on tourne pour hisser les voiles. Et ben sur Groupama,
faut
avoir du muscle dans les bras, mais sur Groupama le bateau est tellement grand et les voiles sont tellement de taille importante qu'on a plus un moulin à café, on a un vélo parce qu'on a plus de force dans les jambes que dans les bras. Et donc le Franck Camas, le premier, avait son vélo et pédalait.
Un vrai vélo. Oui, c'est pas une expression.
Ouais, c'est un vrai vélo.
Pour hisser les voiles.
Il a une selle, un guidon et à la force des jambes, il mouline. Et non, la force des jambes et non pas des bras, il mouline pour hisser ses voiles.
Mais ça, c'est un truc de dingue, pardon, de s'imaginer seul sur un bateau qui a été conçu pour un équipage. C'est dangereux.
C'est un truc de dingue. Et c'est pour ça, en début d'émission, est-ce que tout le monde rêve de naviguer sur ces bateaux-là? Je pense que non, parce qu'il y a quand même très peu d'hommes sur la planète qui sont capables de naviguer sur des bateaux de cette taille. Il y a sans doute une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes grand maximum qui sont capables de naviguer sur ces bateaux qui sont vraiment des machines de guerre.
Il faut une préparation physique.
Il faut être ingénieur pour pouvoir manier ces bateaux. Il y a de l'électronique. Tout est lié à de l'électronique. Par exemple, quand on lâche la barre sur un bateau comme ça, il y a des systèmes anti-chavirage parce que si le bateau commence à lever au bout d'un certain nombre de degrés, il y a un système qui permet de choquer les coudes de grand voile, donc de lâcher la grand voile pour que le bateau ne chavire pas. Donc tout est compliqué sur ces bateaux et ces marins-là sont vraiment de très très grands monsieur.
La vie est spartiate sur ces bateaux, Fabrice Amadeo ?
Sur tous les bateaux de course, la vie est spartiate. Il n'y a pas de WC, il n'y a pas de cuisine.
Il n'y
a pas de toilette. Non, on fait ça dans des seaux, si vous voulez tout savoir. Voilà. Et on mange des lyophilisés, à savoir de la nourriture en poudre. Après, sur ces grands ultimes, ces grands multicoques, la vie est encore plus spartiate parce que les marins n'ont pas la possibilité de rentrer dans une cabine. En général, ils restent juste sous une casquette, c'est-à-dire cette espèce d'abri anti-embrun qu'on a sur le pont. Et ils passent une semaine à quelques mètres de leur barre parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de s'éloigner de leur barre et de leur cockpit.
Et vous dormez comment ? Par petite période courte.
Alors le sommeil est fractionné. Donc sur les multicoques océaniques, ils dorment en général par tranche de 20 minutes. Sur les monocoques comme le mien, c'est un petit peu plus raisonnable. On arrive à dormir par tranche de 40 minutes.
Mais il faut s'entraîner pour dormir comme ça. Moi, je suis incapable de dormir 40 minutes et de me réveiller.
Alors on n'a pas le choix sur un bateau de toute façon. Moi non plus, je suis pas capable à terre.
Vous mettez un réveil ?
Je suis pas capable de dormir 40 minutes à terre. Oui, on a des réveils très puissants qui nous permettent de nous réveiller, qui sont à distance distance suffisante pour qu'on soit obligé de se lever de l'endroit où on dort.
Pour aller l'éteindre, pour pas l'éteindre. Voilà, ouais.
Surtout pas l'éteindre en tapant dessus. Et après, oui, en effet, il y a des préparations spécifiques au sommeil. Moi, j'ai suivi une préparation avec un médecin et beaucoup de marins le font.
Est-ce que vous visualisez une image qui vous aide à vous endormir, par exemple?
Non, alors je sais qu'il y a des marins qui font de l'hypnose, des choses comme ça. Moi, je pratique pas ça. Je m'endors assez bien, en fait. On est tellement fatigué qu'au bout de 48 heures de course, dès qu'on va à la banette, on règle le réveil sur 20 ou 40 minutes, on s'assoit ou on s'allonge et pouf.
C'est presque ça le plus dur, le sommeil, le manque de sommeil?
La gestion du sommeil est un vrai paramètre à la fois de performance et de sécurité, parce que quand on commence à rentrer en dette de sommeil, on commence à avoir les hallucinations et tous ces problèmes-là, et c'est vrai que c'est le début des dangers et des problèmes.
Allez, pour vous, le favori de cette route du Rhum là, qui démarre le 2 novembre, c'est qui?
Alors le favori...
À part vous, en classe 40.
À part moi, en classe 40, bien sûr. Il y en a plusieurs. Il y a Loïc Perron sur son grand Banque Populaire. Il y a Yann Guichard sur Spindrift, mais je pense qu'il a un bateau un peu trop gros et qu'il va avoir quelques difficultés. Il y a bien sûr Thomas Coville sur Sodebo. Je pense que ça va se jouer entre Loïc Perron et Thomas Coville. Mais je pense qu'il y a un outsider qu'il faut regarder de très près, c'est Sébastien Josse sur Edmond Rothschild. C'est un marin redoutable que je connais bien et je pense qu'il va surprendre beaucoup de monde cette année.
Et ben voilà, merci pour ces pronostics, Fabrice Amédéo. Bon vent.
Merci à vous.
Évidemment, le livre officiel de cette 10e route du Rhum est publié chez Glénat. Et puis je signale aussi un magnifique livre qui est titré Voile spectaculaire, avec des photos spectaculaires, évidemment. 8 photographes, et vous signez les textes de ce livre qui est également publié chez Glénat.
Vous écoutez RTL.